Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je suis en compagnie à distance de Marion Chéniaud-Dupuis. Bonjour Marion.
Bonjour à tous, bonjour.
Nous nous rencontrons pour parler de ton livre « Respire, tu es vivante ». C'est un récit autobiographique, une aventure, une exploration géographique, écologique et spirituelle, puisque tu as quitté ta Dordogne natale très jeune pour aller étudier auprès de maîtres du bouddhisme tibétain dans des monastères. Tu t'es installée au Tibet à 22 ans. Tu as été guide de trekking et de montagne. Tu es la seule européenne à avoir gravi 3 fois l'Everest. Tu as mis en place avec les Tibétains de nombreuses initiatives sociales et écologiques, notamment un modèle de gestion des déchets en haute montagne et l'opération Clean Everest pour préserver la qualité des glaciers himalayens. Nous allons en parler. Aujourd'hui menacée par le réchauffement climatique et avec Clean Everest, tu as redescendu 10 tonnes de déchets de la face nord du plus haut sommet du monde. Bienvenue Marion sur le podcast de So Sweet Planet.
Je suis honorée de participer à ce podcast et de pouvoir rencontrer tous ceux qui nous écoutent.
Je pense qu'ils seront ravis d'entendre un petit peu tout ce que tu as à raconter. Donc, on va parler de ce livre. Donc, au début, si j'ai bien compris, tu pars non pas en prenant l'éveil comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour arriver à d'autres fins, notamment être capable de contribuer au bonheur d'autrui. Comme le père de ta meilleure amie que vous étiez partie voir en Inde, toutes les deux, à 16 ans, en 1996. Il s'occupait de cliniques mobiles à ciel ouvert pour les plus démunis, au cœur des bidonvilles de Calcutta. Qu'est-ce que cette rencontre a déclenché pour toi?
Le point de départ, c'est la rencontre avec la souffrance. La souffrance du dénuement, de la plus grande pauvreté, aussi de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Qui est omniprésent, qui sont omniprésentes sur les rues de Calcutta et dans les bidonvilles. Donc c'est cette première rencontre qui m'a bouleversée, qui a ouvert en fait dans mon être comme une sorte de faille au départ, dans laquelle je me suis un peu laissée m'engouffrer, où j'étais en résonance complète avec cette souffrance et un peu démunie pour me sentir à même de pouvoir soulager cette souffrance. Donc, il y a eu une période un peu hésitante, balbutiante, fragile en fait dans mon chemin de recherche d'une voie, d'un chemin qui pourrait me faire traverser en fait cette émotion si forte pour l'amener à devenir une force, traverser la difficulté, la tristesse, la peur aussi de l'autre, pour finalement arriver à me reconnecter complètement à ce souhait, en fait, de contribuer au bien-être de l'autre.
16 ans, c'est jeune hein, pour entreprendre, pour avoir déjà cette curiosité et cette façon de digérer la situation, si je peux dire, parce que c'est vrai que c'était visiblement un choc, la rencontre de toutes ces personnes dans cette souffrance. Et tu écris que tu réalises que la France, ses conforts, sa culture, vous anesthésie physiquement et spirituellement, c'est-à-dire
En fait, toutes ces souffrances, la vieillesse, la maladie, la mort, la pauvreté, elles sont là, elle est là en France. Simplement, il y a un déni qui ne permet pas en fait une confrontation directe et qui ne permet pas en fait cette traversée, pouvoir de l'autre côté en fait comment retrouver des ressources en soi pour pouvoir justement embrasser tout ça et en faire un chemin de reconnexion à l'autre et à tout ce qui nous entoure. Donc, cette anesthésie, c'est plus au niveau de la torpeur, de l'endormissement, en fait, dans le déni, qui n'est pas un déni massif, hein, qui est un déni dans les petites choses, de préférer, en fait, un confort au quotidien, de s'épargner, en fait, hein, d'avoir... se confronter à la difficulté, notamment le confort matériel, pour donner un exemple qui est assez évident, mais aussi un confort psychologique, hein, de vouloir voir ce qu'on veut voir. Voilà. Donc il y a des visions assez limitantes qui, à l'âge où j'avais, en fait, à 16 ans, adolescence, en fait, la rebelle que j'étais, en fait, à ce moment-là, a souhaité découvrir, explorer, en fait, d'autres visions de comment se positionner face à cette pauvreté, cette souffrance.
Alors, en 1998, donc on est 2 ans plus tard, tu as 18 ans, tu repars en Inde pour une mission de 6 mois auprès de lépreux au bord du Gange. Et là, tu commences à décrire un processus sur lequel tu reviens régulièrement dans le livre. C'est ton cheminement pour reconnaître l'ego et les comportements sous-tendus par l'ego. Tu dis « Assise par terre dans la poussière, en plein bidonville, ne reste que le cœur ». Jour après jour, je m'ouvre à une perception moins conquérante. Je quitte la posture de celle qui veut aider. C'est ta première étape, c'est prise de conscience déjà par rapport à toi-même et à cette dimension de l'ego. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ces passages dans ton livre, en citer quelques autres au long de l'interview, parce que cette façon que tu as de le décrire, je trouve ça assez... c'est à la fois lucide et c'est aussi, ça demande aussi beaucoup d'humilité, mais c'est justement, si tu lâches un peu d'ego, normalement, ça laisse place à l'humilité. Alors, est-ce que c'est la première étape à ce moment-là, dans ce processus-là, par rapport à l'ego en 98, là, par rapport à ce que tu décris?
Oui, c'est l'étape en fait de découverte de toutes les facettes. Pour moi, il n'y a pas un ego qui fait bloc et dans lequel je suis emprisonnée. C'est plus facile en fait d'aborder ce chemin de déconstruction de ces croyances limitantes dues à des parts de nous qui, à un moment donné, voilà, se sont racontées une histoire qui, dans mon cas, donc à Calcutta, tournait autour de « je veux être celle qui veut aider les autres, je veux contribuer au bien-être des autres et soulager leurs souffrances ». Donc, à l'origine, une intention magnifique, mais simplement, en application, quand il y a une volonté, en fait, trop forte, de vouloir exister à travers cette identification « je veux aider », c'est un obstacle. Et en fait, l'autre le ressent parce que finalement, ça manque de fluidité, ça manque de naturel. Ça manque aussi simplement de ne serait-ce que d'écoute, hein, et d'accueil de ce qu'est l'autre, parce que je vais apposer à l'autre un filtre de « tu as besoin d'aide, je vais être là pour ça ». Alors que je voyais qu'en fait, chez les docteurs dans la clinique qui avait été créée par Jack Prager, qui a été un de mes, voilà, de mes exemples de maître compassion.
Le père de ta meilleure amie.
De ma meilleure amie, voilà, qui était docteur à Calcutta et qui avait créé cette organisation Calcutta Rescue qui agit directement dans les bidonvilles. Et donc là, il y a les réseaux de docteurs sur toutes les différentes cliniques qui agissent au quotidien. Et je les fréquentais donc, et je voyais qu'ils étaient tous les jours en fait, joyeux, ouverts, dans une attitude de non-effort. Ils prenaient les patients qui arrivaient. Parfois, il y en avait beaucoup plus que ce que la clinique pouvait accueillir. Et puis, parfois, les conditions ne permettaient pas de prendre tout ce qui arrivait. Et pourtant... chaque matin, ils étaient là avec leur grand sourire et ils restaient jusqu'à des fois pas d'heure dans l'après-midi, la soirée, pour être sûr que tout le monde reçoive les soins. Et je voyais qu'en fait, leur énergie en fait, se renouvelait d'une manière que je ne comprenais pas à cette époque comment est-ce possible d'être autant en contact avec une source en eux qui leur permettait en fait de continuellement se ressourcer et pouvoir donner. Et là, en fait, je voyais que des réponses à ma question de « Ok, maintenant, je sens la résonance, la souffrance avec l'autre. J'ai moi-même ce souhait de vouloir venir en aide. Mais comment je vais faire ce passage pour pas en fait me laisser tomber, couler dans cette souffrance, cette détresse ?» et moi-même en faire une détresse personnelle et arriver au contraire à chaque jour me lever avec cette joie, cette énergie, cet enthousiasme qui ne faillit pas pour être là à côté des patients. Donc je sentais qu'ils avaient quelque chose et j'ai souhaité en fait découvrir l'apprentissage qui allait pouvoir m'amener à cette même capacité que j'ai appris plus tard à être la compassion.
Mais eux, ils pratiquaient déjà le bouddhisme tibétain, ces médecins-là, ou c'était d'autres formes de...
Non, c'était vraiment cet entraînement de l'esprit voilà, qui est présent dans le bouddhisme tibétain, qui mène à développer la capacité d'être en compassion. Ça, ils l'avaient, en fait, eux, naturellement. J'ai juste senti, en fait, que si eux pouvaient l'avoir, voilà, j'avais...
Tu avais envie d'accéder au même... Oui. Parce que tu t'es intéressée, j'ai vu aussi à l'hindouisme au début.
À Ama, la grande sainte voilà, qui prend tous les êtres dans ses bras.
Ah oui, que tu as rencontré aussi plusieurs fois.
Oui, très jeune, et qui m'a aussi mis sur cette voie en fait, de comment l'amour peut devenir inconditionnel et être auto-générée. En fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens viennent vers elle, elle est tout le temps dans un flux continu en fait, d'accueil, de réception, de tout ce qui vient. Donc ça, c'était des exemples comme Ama, comme Jack Prager, comme aussi les maîtres tibétains que j'ai rencontrés depuis que j'ai 16 ans et qui m'ont inspiré cette vocation d'apprendre à développer ces mêmes capacités.
Oui. Lorsque tu pars pour l'Inde, puis pour le Tibet, tu quittes donc ton Périgord vert en Dordogne et un environnement familial déjà sensible, je crois, au lien avec la nature. Est-ce que tes parents avaient préparé le terrain, en fait ?
Oui, avant l'apprentissage de la compassion, qui a été de mon propre choix, avant, j'ai fait l'apprentissage de la nature. Ça, c'était le choix de mes parents et qui m'ont transmis à travers une éducation de mode de vie au fin fond de la forêt, à jouer au milieu des bois, à construire des cabanes, grimper dans les arbres, découvrir toutes les traces des animaux dans la boue, dans la neige, de reconnaître. Après ça, c'était vraiment plus l'aspect connaissance avec mon père qui connaît extrêmement bien les noms des plantes, des arbres, des animaux. Donc, reconnaître même le chant hein, des oiseaux. Identifier le nom des plantes. C'est une connaissance qui est extrêmement vaste, qui est expérientielle, voilà, qui vient avant tout d'une immersion dans le monde naturel. Et ça, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance de naître et de grandir toute mon enfance dans cet environnement.
Alors, tu prends cette recherche spirituelle très au sérieux, toute jeune, puisque tu suis alors des études à l'école du cirque en France, que tu quittes à 22 ans, tu t'installes au Tibet pour y être initié par des maîtres bouddhistes tibétains, tu y médites pendant des semaines, même plus longtemps que ça, dans des grottes, tu mènes une vie austère et monacale, complètement coupée du monde, tu te rases la tête, tu expliques « j'ai besoin de m'inscrire au sein d'une tradition, de suivre un enseignement long, solide, je désire entraîner mon esprit à la compassion. » Alors, comment ça se passe d'entraîner son esprit à la compassion concrètement ? Ça consistait en quoi dans cette voie que tu as choisie quand tu es arrivée dans un monastère à l'autre bout du monde, si jeune ? Quels étaient les exercices dans cette voie-là ?
Oui, il y a des étapes. Oui. Déjà, bon, en fait, je suis partie à 18 ans de France, de l'école de cirque, et j'ai passé donc mes 4 années d'études après le bac dans un monastère à Darjeeling, donc de 18 à 22 ans.
Ah oui, en Inde.
En Inde. Donc là, le point de départ, c'est l'apprentissage de la langue tibétaine. Parce que mon maître de méditation, qui m'a finalement acceptée dans son monastère.
Que tu voulais rejoindre, mais c'était un monastère où il n'y avait que des hommes, et toi, tu arrives petite française qui ne parle pas la langue.
Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de structure prévue pour accueillir un élève occidental, femme. Donc j'étais un peu à l'extérieur du monastère. Je vivais dans une petite auberge tenue par des Indiens posée au monastère. Et j'ai dû apprendre très vite la langue tibétaine. Donc ça, c'était assez facile parce que, étant jeune, j'avais fait déjà des apprentissages de langue étrangère. Donc j'ai pu me consacrer entièrement à ça pendant quelques mois. Pour au bout de 6 mois, j'étais assez, j'étais fluide même pour parler et recevoir les enseignements. Donc après cette étape, j'ai commencé à apprendre la méditation de calme mental, c'est-à-dire arriver à fixer son esprit sur un seul point et demeurer stable suffisamment longtemps pour que les distractions habituelles de l'esprit ne prennent pas le dessus, mais qu'au contraire, en fait, il y ait une capacité à revenir sur le point fixé au début de la séance, et même de maintenir cette vigilance veille sur l'esprit, en fait, au-delà des séances de méditation, tout au long de la journée, pour intégrer, en fait, cette capacité de concentration jour et nuit. Bon, après, ça, c'est dans l'idéal, hein. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout ces capacités, encore moins pendant la nuit, mais même pas tout au long de la journée. Simplement, je dirais que c'est une base indispensable, qui est sans cette maîtrise, en fait, de cette connaissance du fonctionnement de l'esprit, qui va toujours, en fait, partir à la suite de ses pensées, et sans être conscient quand ça arrive, on ne peut pas aller plus loin pour, en fait, développer, cultiver des nouvelles habitudes mentales, telles que la compassion, simplement parce qu'au départ, on ne connaît même pas son esprit, en fait, et le fonctionnement de son esprit. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, donc là, ce qui nous intéresse, là, c'est l'apprentissage de la compassion. Comment y arrive-t-on ? C'est un passage intéressant quand on commence à être proche ou intime avec le fonctionnement de son esprit, de voir comment nos propres émotions peuvent nous submerger parfois ou nous amener dans différentes directions qui ne sont pas forcément celles qui nous mettent le plus à l'aise ou
heureux.
Plus heureux, voilà. Plus paisible. Donc, cultiver la compassion commence en fait par détecter tout ce qui nous empêche d'être connecté de manière douce et bienveillante avec ce qui nous entoure. Et aussi, la première étape, avec soi-même. Donc déjà, commencer par avoir une douceur envers nos propres pensées qui vont de toute façon, et nos émotions d'ailleurs aussi, continuer de nous submerger. Découvrir, donc il y a différents mêmes part de nous qui se cristallise autour d'histoires, de tout un narratif en fait qu'on se fait, auquel parfois on s'identifie très fort, et qui vont parfois bloquer notre être dans l'ouverture qu'est notre être quand il est stable, quand il est en paix. Et c'est arriver en fait à détecter ce qui bloque et ce qui va arrêter cette ouverture, et pour en fait le désamorcer le plus tôt possible et laisser au contraire émerger depuis cette stabilité, cette paix dont on a parlé au début, qui est le calme mental, des qualités naturelles dans l'esprit, d'accueil, bienveillance, de compassion envers soi-même et envers tout ce qui nous entoure.
Alors, il y a une autre analyse que je trouve amusante aussi, parce qu'en fait, on voit que tu ne cherches pas à dissimuler tes erreurs et les illusions, parce qu'au contraire, tu racontes les pièges dans lesquels tu tombes et dans lesquels beaucoup d'entre nous peuvent tomber. En fait, c'est en ça que le récit est intéressant aussi. C'est parce qu'on peut faire des ponts avec nos propres vies. Et là, tu dis « je ne souhaite plus que me consacrer aux retraites spirituelles et devenir nonne. La solitude s'impose comme ma compagne, sans stimuli et confrontation extérieure. Une nouvelle forme d'engourdissement s'installe. Un gel me sépare de la vie, mais je n'y prends pas garde. Je ne ressens plus mes émotions, je suis déconnectée de mon corps et n'éprouve pas le besoin d'établir des relations avec les autres. J'en oublie même mon vœu de devenir travailleuse sociale. Les formules altruistes que je récite sont presque mécaniques. L'autre devient abstrait et lointain, il représente un danger. Et cette analyse, aujourd'hui, on a presque l'impression qu'elle t'amuse.
Oui, et puis j'ai essayé d'être vraiment fidèle à mon évolution. Là, je suis vraiment jeune, j'ai entre 18 et 22 ans, j'ai ce caractère extrêmement extrême. Enfin, extrême, là, c'est... Oui. donc forcément j'en ris avec et j'en ris de plus en plus souvent D'ailleurs, c'est ce que mon maître m'a dit dans les premières semaines quand je suis arrivée au monastère, alors que je me prenais la tête sur des visualisations compliquées. Il m'a dit, mais tu veux trop. Et je me suis rendu compte que donc, dans ma recherche quête spirituelle, je voulais trop, en voulant trop, je me suis coupée en fait de moi-même, des autres, du monde. Et des sensations, et puis du corps, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'assez... un isolement qui est assez global. Mais voilà, qui mène évidemment à des compensations de paix intérieure qui me nourrissaient à cette époque-là. Et puis ça m'a permis d'accéder aussi à certains modes de conscience, des états de conscience modifiés, hein, tout simplement. Ouais, dans des absorptions méditatives, où effectivement, je voyais quand même toute la profondeur de ce que l'esprit peut aller explorer, l'esprit qui s'explore lui-même, hein, c'est ça l'idée, hein, c'est la conscience qui s'explore elle-même. Et quand elle est complètement focalisée sur l'exploration de ce qui la compose, la conscience qui se retourne vers elle-même, c'est assez grisant. Donc, j'ai vécu ces années d'exploration de la conscience.
Alors cette étape, c'est aussi celle de la rupture un peu violente avec ton maître spirituel, et tu dis qu'à ce moment-là, ton ancien monde s'effondre. Donc là, c'est encore une nouvelle étape, une nouvelle prise de conscience que tu racontes aussi avec beaucoup d'autodérision. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors là, j'ai la chance d'avoir rencontré un maître authentique qui ne laisse aucune place à des dérives, des échappées spirituelles, des écueils comme là où j'étais dans mes absorptions méditatives, à me prendre pour quelqu'un qui était différent des autres. Mmh. Donc c'est lui qui m'a secouée en fait, en me montrant en fait dans le miroir du maître authentique qu'il était, qui n'avait pas de place pour tous ces petits jeux en fait de retournement de conscience, qui s'est fascinée par elle-même, etc. Donc c'est grâce à sa force, parce que c'était assez dur pour moi d'être un peu comme jetée à l'extérieur du monastère pour finalement me retrouver face à moi-même. Et c'est là où voilà, je suis partie précipitamment et je me suis retrouvée sur une île.
Oui, parce que t'étais vexée.
Oui, j'étais très en colère.
C'est assez drôle. Et donc, tu prends tes affaires et bye bye, quoi.
Voilà. Et je tourne le dos.
Un premier bus. Un bus qui part n'importe où.
Oui. Et puis, ça me mène à Calcutta. Puis, ça me mène à Bangkok. Et puis, ça me mène sur une île à Koh Chang. Puis, au fin fond de cette île, il y avait la dernière piste qui menait à une immense plage où il n'y avait vraiment plus personne. Et là, je me nourris d'ananas et d'eau pendant toute la semaine. Il y avait deux, trois filles comme moi qui étaient complètement aussi perdues. Et je retrouve voilà, contact avec mon corps. Donc, je retrouve les contours de mon corps. Je sens l'eau, le sable, les saveurs des fruits. Et tout d'un coup, voilà, je reviens petit à petit en fait, à une dimension plus terrienne, plus ancrée dans la matière, et ça me fait du bien. Donc je suis très en colère encore, je purge toute ma colère en prenant des bains constamment dans la mer, et je me dis que je vais plus jamais retourner dans le monde tibétain et dans le monde bouddhiste. Je tourne le dos à tout ça.
Mais le monde bouddhiste t'a rattrapé, puisque ensuite tu rentres en France chez tes parents, mais le Tibet te rappelle.
Oui, il y avait une lettre d'invitation à l'université du Tibet à Lhasa qui atterrit chez mes parents. Parce que
tu t'étais inscrite, mais tu avais un peu oublié alors.
C'est ça, j'avais oublié l'inscription que j'avais faite il y a juste 3 mois auparavant. Et premier passage à Lhasa où j'étais interprète pour des journalistes d'un journal allemand. Et suite à cette lettre d'invitation, ne sachant plus trop où aller, je décide voilà, de demander le visa et d'aller jusqu'au bout de cette démarche d'inscription, et j'arrive à Lhasa au même moment en fait où mon maître de méditation, le fameux vers lequel j'avais eu tant de rejet à l'époque, souhaite lui-même créer un projet dans sa région natale au Tibet, à côté du mont Kailash. Donc c'est au fin fond, vers la frontière indienne du Ladakh, fin fond du Tibet, du côté chinois, un immense plateau. où vivaient uniquement les nomades qui vivent de l'élevage. Et là, ils souhaitent en fait qu'un projet soit monté pour les accompagner dans leur transition de vie, parce qu'ils sont en train de passer d'un mode de vie éleveur nomade traditionnel à un mode de vie nomade moderne, plus proche des réalités en fait de la Chine moderne.
Mais tu n'étais plus en contact avec lui?
Non.
Avec ton maître?
Non, donc, là je ne peux pas.
Tu l'apprends par des tierces personnes ou...
Oui, en fait, j'avais quand même eu vent de ce projet avant mon départ impromptu du monastère. Et une fois que je suis sur place, je me rends compte qu'il y a plein de messages qui m'arrivent, qui viennent du monastère, de lui, et puis des Européens qui souhaitent aussi se mobiliser pour lancer ce projet. Donc, je fais partie d'un petit groupe de personnes qui souhaitent réaliser ce souhait.
Ensuite, j'aimerais que tu nous parles du grand bond vers l'Ouest. Lorsqu'entre 2002 et 2007, la Chine mène une campagne de développement dans des régions très reculées, aux frontières avec l'Inde et les pays d'Asie centrale, et tu écris « Leurs connaissances traditionnelles, leur culture, leurs moyens de subsistance sont devenus obsolètes. Les Changpa voient leur région écorchée vive par de grands chantiers de construction. La conscience écologique et les savoir-faire nomades n'ont aucune valeur pour le capitalisme grandissant. Heureusement, ils s'entraident pour survivre dans un milieu hostile, à la fois géographique et politique. » Et là, tu commences à nous parler plus concrètement écologie, et l'on sent que ta conscience écologique va grandissant au fur et à mesure que tu t'ouvres au lien avec tout le reste du monde vivant et aux liens d'interdépendance dans ce monde vivant qui sont très concrets, hein, puisque dans tes expéditions, lorsque tu pars faire des treks, il y a un rapport très très puissant avec la montagne et avec toutes les choses naturelles qui t'entourent, les yaks et tous les animaux. Et ton éveil spirituel semble aller de pair avec ton éveil écologique. Mmh. Comment tu l'expliques?
Alors, ce qui m'a beaucoup aidée sur mon chemin, c'est la rencontre avec des nomades qui m'apprennent au fil des mois et des années que je passe avec eux le mode de vie en lien d'interdépendance, déjà entre eux et de l'homme aussi à la nature. Et c'est tellement incarné chez eux qu'en fait, j'ai plus besoin de grands enseignements théoriques. Je comprends comment tout ça s'articule de manière empirique. Et c'est beaucoup plus puissant finalement comme transmission pour que ma transformation à ce moment-là intérieure s'accélère. Et je me rends compte que le mental peut même me jouer des tours en fait quand j'essaie de comprendre des idées en fait par la voie intellectuelle. Et je me prends les pieds dedans et puis finalement je continue à tourner en rond, alors que quand finalement j'ose faire le grand saut de vivre en fait selon un certain nombre de préceptes de vie minimaliste, d'immersion complète dans la nature ou de vivre en tribu, c'est-à-dire que je me rends compte que je peux pas en fait dépendre que de moi-même. C'est une idée complètement fausse. J'ai besoin de tous les liens dans la communauté. Et c'est cette expérience qui finalement devient la base de cet éveil écologique. Près de là, est-ce que vous parlez d'éveil spirituel ou pas? Alors ça, je me prononcerai pas du tout là-dessus. C'est même plus la question à ce moment-là. Voilà.
En tant qu'éveil définitif, je veux dire en tant que cheminement justement aussi, d'ouverture, de travail sur soi, après de où on en est, après on peut aussi considérer que l'éveil c'est le cheminement, c'est pas forcément.
Et dans
ton livre on voit justement toutes ces étapes que tu passes de prise de conscience, d'enlever des illusions, de tout ça, et puis au niveau de l'écologie on voit aussi tout ce parce que c'est ça devait pas être rien de vivre avec des gens qui ont une culture si différente de la tienne, une autre langue, dans des endroits où il y a pas de, là il y a pas de portable, il y a pas de réseau, tu es dans les montagnes, c'est rude, la vie a l'air très rude à ce moment-là, là, dans ces expéditions où tu passes beaucoup de temps quand même avec eux, de jour, de nuit, à dormir, il fait froid, ça donne pas tellement envie. Hein,
je trouve. C'est vrai que je parle pas même assez dans mon livre, je pense, de la difficulté au niveau d'adaptation à des niveaux de confort qui est très très bas. Ça, c'est vrai que je mets quand même pas mal cette réalité. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez aérien, que dans l'esprit, etc. Alors qu'effectivement, le parcours est un peu difficile, finalement, dans ces aspects matériels, a énormément contribué aussi à engrammer dans mes cellules, dans mon corps, en fait, cette recherche d'une vérité, en fait, qui est basée sur l'expérience, plus que justement dans les idées. Voilà.
Oui, c'est vrai que la partie du livre, et c'est quand même assez tôt dans le livre, mais où on sent les liens avec le concret qui se mettent en place très fort. Mais il y a aussi toute la culture, comme souvent avec les populations autochtones, cette culture qui est encore très vivante, où la montagne, enfin, tout est personnifié, sont des déesses, il y a des relations avec tout ce monde. Qu'un occidental qui débarque comme ça, un monde dont il n'a pas conscience et qui ne voit pas, et sûrement auquel il a du mal à croire. Mais tu rentres vraiment très loin dans leur monde.
Oui, oui, les frontières entre l'imaginaire et le réel sont très, très poreuses. Et c'est cette même image de la respiration, en fait, et de la vie qui traverse entre monde matériel et monde de l'esprit, où finalement, cette perception poreuse en fait entre monde extérieur et monde intérieur permet de justement cette expansion d'un être plus vaste en nous qui n'est pas limité dans une croyance en la réalité du monde extérieur qui se définit par un certain nombre de points de référentiels en fait qui nous ont été donnés depuis notre enfance par notre culture, notre éducation, les politiques, la société qui nous fait voir les choses d'une certaine manière. Et c'est vrai que de pouvoir imaginer, ne serait-ce que imaginer en fait que c'est possible de laisser tomber toute cette construction, de laisser traverser d'autres visions du monde, d'autres perceptions dans notre champ du vécu, d'expérience, devenir pneumatique avec justement tout ce qui nous entoure, y compris la culture, les mentalités, les perceptions du monde, et sans chercher à s'en approprier de nouvelles, mais simplement en fait laisser de plus en plus de trous en nous pour que puisse passer ce souffle qui nous fait justement dans cette respiration aller vers l'autre de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, parce que je ne suis pas cristallisée dans mes croyances et dans mon identité basée sur ces croyances. Donc ça, c'est une force que je souhaite vraiment pour tout le monde de développer. Hein. C'est de déconstruire vraiment toute cette armure d'opinion, de croyances, de facettes de sa personnalité qui se crispent sur certaines idées préconçues. Hein.
Donc ensuite, tu commences à lever des fonds. En Europe, qu'est-ce que tu mets en place ?
Alors au départ, j'essaie de suivre le modèle classique des ONG, donc de développement de projets sur ces régions nomades, la région natale de mon maître.
Et, oui, parce que tu les as observées, mais ça t'a un petit peu agacée, je crois.
Oui, voilà, j'essaie de suivre un peu les exemples qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est un peu une réplique dans tous les pays du monde, en fait, d'un manuel de développement local où, en fait, la dimension locale n'est pas vraiment prise en compte. C'est-à-dire que...
Oui, elle est même souvent niée.
Elle est niée.
On arrive et on impose...
Voilà, un modèle qui a fonctionné dans les autres pays. Donc,
ou pas.
Ou pas d'ailleurs, mais voilà, soi-disant. Oui. Donc là, je comprends en fait très vite que les nomades, leur besoin premier, c'est leur autonomie. Ouais, ça paraît assez évident, pas à se poser 36 000 questions pour comprendre ça. Mais ça n'a pas forcément été compris par tous ceux qui arrivaient sur ces régions où vivent les nomades. Donc, je me rends compte que pour arriver à cette autonomie, en fait, c'est en se donnant les moyens voilà, de comprendre les grands changements qui leur arrivent. Donc, c'est par l'éducation, d'une certaine manière, qu'ils vont pouvoir retrouver cette autonomie. Et je me rends compte que bon, bah, les ONG, à ce moment-là, en fait, ne peuvent pas vraiment offrir ces solutions-là. Donc, en fait, je m'éloigne.
Peut-être qu'elles peuvent offrir des aides, mais c'est plus à court terme, quoi. Toi, tu te mets dans une perspective de quelque chose à long terme pour faire une vraie transition profonde.
C'est ça. Et puis, en fait, elles sont aussi, les ONG, elles sont assez liées, en fait, au plan gouvernemental. Parce que, finalement, elles sont juste tolérées du bout des lèvres pour être là. Mais c'est pas un vrai ancrage, en fait, où elles ont une marge de manœuvre comme ça suffisante pour mener sur long terme des longs projets. Donc, c'est plus un substitut, en fait, à ce que le gouvernement aurait fait, de toute façon, 3-5 ans plus tard. Et finalement, donc, je me détourne un peu de cette voie-là. Et je décide en 2008, donc 5-6 ans après mon arrivée au Tibet, de monter une entreprise qui va être plus proche des réalités de besoin de recherche d'autonomie des porteurs de projets avec qui je travaille, des Tibétains.
Oui, mais une entreprise dans quel domaine alors ?
Alors, c'est une entreprise d'accompagnement, de conseil pour les entrepreneurs sociaux tibétains. Donc, c'est la première plateforme qui existe dans ce domaine-là. Et qui a pour vocation donc, de suivre les entreprises tibétaines qui souhaitent se développer en incluant leurs valeurs tibétaines au sein d'un projet économique viable. Donc, la côté autonomie, c'est d'être, ne pas dépendre de fonds d'ONG. Et le côté social, c'est de en fait, préserver la culture tibétaine et l'écosystème du plateau tibétain pour que, sur le long terme, donc la sagesse, la richesse de cette culture puisse bénéficier en fait, au maintien et la préservation de l'écosystème.
Oui, puisque ensuite, tu rencontres Tashi Dorji, qui est né dans une famille nomade, et son projet ambitieux d'institut des nomades. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le troisième pôle ?
Oui, le troisième pôle, c'est un terme qui a été écrit il n'y a pas très longtemps, pour désigner une région qui recouvre des terres sur 8 pays différents, qui couvre toute la chaîne Himalaya et tout le plateau tibétain, voilà, en passant par le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Tibet. Donc ça a une très grande envergure. Et sa particularité, en fait, c'est de montrer qu'il y a une quantité de terres gelées et de glaciers sur cette zone, de même que le pôle Nord et le pôle Sud forment une réserve d'eau douce pour le monde. Cette zone-là, du troisième pôle, qu'on appelle aussi le Hindu Kush Himalaya, dans son appellation scientifique, et aussi une très grande réserve d'eau douce pour le monde. Mais c'est vrai que la superficie du troisième pôle, en fait, c'est très majoritairement sur le Tibet.
Ah oui. Et donc, à propos de cet Institut des Nomades, tu écris « L'Institut souhaite promouvoir le tourisme responsable ainsi qu'une chaîne de magasins zéro déchet pour une clientèle nomade soucieuse de ne pas polluer les pâturages et donc de ne pas acheter de produits dont les emballages deviennent des détritus. » Et ça, c'était assez avant-gardiste, non ? Comment ça a été perçu sur place ?
Oui, en fait, on a affaire à un porteur de projet, Tashi Dorje, qui est absolument exceptionnel. Donc, c'est un nomade lui-même qui est venu vers mon organisation Global Nomade qui est fondée à Hong Kong, qui donc soutient les projets d'entrepreneuriat social. Et il a adoré le nom de cette structure.
Le nom de Global Nomade.
Et il est venu vers nous en nous demandant justement de l'aider à renforcer les aspects économiques de son projet. Parce que lui, il a travaillé pendant plusieurs décennies sur les questions de protection de l'environnement. C'est quelqu'un d'extrêmement reconnu au niveau national pour toutes ses actions, notamment sur la protection des antilopes, mais aussi des antilopes sauvages tibétaines. Voilà, mais aussi de très nombreux autres projets. Et puis, vers la dernière partie de sa vie, il veut la consacrer à monter un institut, l'Institut des Nomades, qui sera un lieu de collecte de tous les savoirs traditionnels nomades, qui sont justement la source, la base de cette conscience écologique qui permet de restaurer l'écosystème tibétain, parce qu'il est bien endommagé. Il faut savoir qu'en fait, cette région du troisième pôle, donc de vastes terres gelées, où vivent les nomades, qui sont là depuis des millénaires, et qui vivent de l'élevage, sur un mode extensif, c'est-à-dire sur d'immenses territoires où les troupeaux en fait pâturent tout au long de l'année sur différentes zones. Et ce mode d'élevage extensif permet en fait de maintenir sur ces immenses terres un équilibre où le sol en fait est fertilisé Et avec l'herbe en fait, qui arrive à pousser chaque année, le manteau herbeux en fait, se maintient, permet de garder l'humidité sur la partie superficielle du sol. Et cela évite en fait, que les failles se creusent avec le réchauffement climatique et la fonte du permafrost. Et cela évite aussi qu'il y ait des zones entières qui soient désertifiées déjà. Parce qu'avec l'érosion par le vent, dès qu'il y a un petit bout de terre qui commence à se désertifier, en fait, ça fait des immenses plaines désertes à cause du vent. Et ça évite aussi qu'il y ait des failles qui se creusent ou des émanations de carbone et de méthane en fait, se diffusent après dans l'atmosphère et amplifient le problème du réchauffement climatique. Donc, c'est une zone qui est extrêmement fragile, qui a besoin d'être protégée rapidement. Il peut aussi y avoir, d'ailleurs, à cause de ces failles dans le permafrost, en fait, des virus infectieux qui sortent des profondeurs et qui remontent...
Oui, ça aussi, on en entend parler de plus en plus, oui.
Voilà, donc les enjeux sont majeurs. Voilà, donc là, le pari, en fait, que fait l'Institut des Nomades, c'est de dire que les nomades ont un rôle à jouer dans la restauration de l'écosystème de ces hauts plateaux, de cette aire gelée. Et de montrer que les savoirs traditionnels de mode de vie en harmonie avec la nature sont des savoirs précieux qu'il est indispensable en fait de transmettre de génération en génération pour que dans l'avenir proche en fait toute ces nouveaux nomades puissent intervenir de plus en plus nombreux en fait comme protecteurs de l'environnement et de faire après connaître ces savoirs auprès des scientifiques nationaux et internationaux pour travailler avec eux en fait sur la validation d'un certain nombre de ces bonnes pratiques environnementales pour qu'ensuite ça puisse devenir même une réglementation nationale et voire même peut-être on peut imaginer que ça puisse même donner des idées dans d'autres régions du monde qui font face aux mêmes problèmes sur comment restaurer l'écosystème. Et puis aussi, sur le plan économique, comment aider les nomades à rester nomades, c'est-à-dire vivre de l'élevage avec leurs grands troupeaux sur des immenses territoires, tout en ayant aussi accès à des modes de vie plus confortables grâce à la modernité, et donc de générer des revenus pour eux, en fait, grâce au magasin zéro déchet, et puis aussi à développer un tourisme responsable, qui de toute façon, un tourisme qui vient jusqu'à eux, qu'ils le veuillent ou pas. Après, c'est à eux de comprendre là où ça peut être néfaste pour leur environnement et comment ils peuvent contrecarrer cet afflux de tourisme, surtout au niveau domestique, mais aussi international, et comment ils peuvent créer des infrastructures et des modes de voyage en lenteur, en connaissance de l'environnement, pour que ce soit un tourisme respectueux.
C'est la fin de cette première partie du podcast de Sous-Suite Planète avec Marion Chéniaud du Puy pour parler de son livre « Respire, tu es vivante », de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle aux éditions Masso. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode pour la suite de cette rencontre. Nous parlerons du développement des activités de tourisme éco-responsable autour de l'Everest, des projets au Tibet, de la fonte des glaciers dans l'Himalaya, des alpinistes qui viennent pour escalader l'Everest et que Marion a accompagné plusieurs fois sur ce sommet que l'on appelle le toit du monde, puisque c'est le plus haut sommet de notre planète. Nous parlerons aussi de l'Institut des Nomades, à nouveau, de la vie de Marion avec les guides tibétains et de bien d'autres choses. Donc je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sous-Suite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sous-Suite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sous-suite-planète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-Suite Planète mis en ligne. À bientôt!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.